ça c'est le summum, mais bon, c'est quelque chose qu'on n'atteint pas et donc il faut simplement le contempler. Il y a un auteur qui s'appelle John Stott, il a dit, affirmer que personne ne serait capable de réaliser ses exigences reviendrait à nier l'objectif du serment. Et il dit, les mettre à la portée de tous manifesterait une grande ignorance de la réalité du péché de l'homme. Mais ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ sont en mesure de vivre ces exigences. Et donc, le serment sur la montagne, on appelle ça sur la montagne, tous ces versets, toutes ces recommandations que Jésus donne ici sont possibles à vivre pour ceux qui lui appartiennent. D'autres disent que c'est quelque chose qui sera réalisé quand on sera dans la perfection. Et donc, ce n'est pas la peine trop de s'en inquiéter pour maintenant. Mais c'est vrai qu'on sera parfait quand on sera dans la perfection. Mais je crois que ce que le Seigneur Jésus donne ici comme, comment dirais-je, profondeur de la vie chrétienne est à réaliser aussi dans notre vie de tous les jours. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, le Seigneur vise pour chacun de ses enfants la perfection, même si nous sommes conscients que nous avons besoin de progresser. Et donc, le sermon sur la montagne, ces passages, chapitres 5 à 7, sont importants pour nous, pour plusieurs raisons. Je vais citer celles qu'un auteur a données. Il dit qu'il est nécessité de la nouvelle naissance. Il vise à conduire à Christ. Il présente le modèle du bonheur selon Dieu. Et puis il équipe les chrétiens pour être de véritables évangélistes qui attirent d'autres au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il est important pour nous de considérer ces, de manière pratique même, ces textes, cet enseignement de Jésus. Donc, le passage commence au chapitre 5, on va lire Matthieu chapitre 5, et à partir du verset 1, on va lire de verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12, on pourrait dire que c'est l'ouverture un peu du sermon qui commence d'une manière assez particulière. Vous allez tout de suite le remarquer. Matthieu chapitre 5 verset 1, il dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles, de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alors, bien sûr, vous aurez remarqué un mot qui est répété plusieurs fois, et c'est le mot « heureux », d'où le nom de « béatitude » pour cette section du sermon sur la montagne. Donc, ce qui frappe de toute évidence, c'est ce mot « heureux », ou parfois, ça peut être aussi « béni ». Et donc, c'est cette partie traite, on pourrait dire, du bonheur et de ce que c'est que d'être heureux. Parce que le Seigneur Jésus commence comme cela, heureux, béni. Quelle est votre définition de l'homme heureux? Pouvez-vous poser cette question? Qu'est-ce que le bonheur? Peut-être que vous avez dit à des gens au début d'année, tous mes vœux de bonheur. Mais qu'est-ce que l'on met dans ce mot? Quel poids on le fait porter? Qu'est-ce qu'il véhicule pour nous? Le frère Michael nous a fait remarquer que, dans l'introduction de son message la semaine dernière, qu'il y a la bénédiction française qui consiste à souhaiter la bonne année et la santé. Et là, je pourrais rajouter aussi, dans cette bénédiction, qu'on rajoute souvent le bonheur, tous mes voeux de bonheur. Le bonheur est de tout temps un sujet de grande discussion, de débat. Je vous apprends rien. Tous les philosophes d'hier et d'aujourd'hui se sont intéressés à la question du bonheur et de ce que c'est que d'être heureux. Il y a des tonnes de citations, vous pouvez chercher, trouver des tonnes de citations sur le bonheur, et je crois que les rayons des librairies, au moins chaque année, ne désemplissent pas avec des personnes qui ont toutes sortes d'idées sur le bonheur. Et dans une société comme la nôtre, on a appris à tout mesurer, j'ai vu qu'il existe ce qu'on appelle l'Observatoire international du bonheur. Oui, ça existe, depuis plusieurs années. Et savez-vous ce qui sera célébré le 20 mars 2017? Eh bien, je vous le dis, c'est la journée mondiale du bonheur. L'ONU a décrété que le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Et ça existe, de quoi que l'année dernière, c'était pareil. Donc, vous allez, il y a maintenant, un jour, on aura 365 journées mondiales de quelque chose. Parce que, il y a beaucoup de journées mondiales comme ça qui sont décrétées à chaque fois. Et l'ONU dit ceci, Monsieur Ban Ki-moon a dit, en ces temps marqués par de graves injustices, des guerres dévastatrices, des déplacements massifs de population, une misère noire et d'autres souffrances causées par l'homme, la journée internationale du bonheur est l'occasion d'affirmer partout dans le monde que la paix, le bien-être et la joie doivent passer avant tout. C'est une déclaration d'intention. Peut-être on pourrait dire que c'est un effet d'annonce, mais quand on regarde autour de nous, on sait bien que si on attend le 20 mars, eh bien on pourra le remplir avec la liste des malheurs et des péchés et des viols et des meurtres et des accidents qui se produisent. Donc ce n'est pas parce que l'homme décrète, parce que des gens décrètent que ce sera la journée du bonheur, que les gens connaîtront pour autant le bonheur. Et l'homme essaie de définir ce que pourrait être le bonheur. Ce que c'est que d'être heureux, il propose mille et une recettes. Notre ancien ministre de l'Éducation nationale, il y a déjà quelques années, a écrit un livre qui s'intitule « Sept façons d'être heureux » ou « Le paradoxe du bonheur ». Voilà, donc c'est Monsieur Luc Ferry, si vous voulez chercher, vous pouvez lire, voir ce qu'il dit là-dedans. Bon, je doute que vous puissiez trouver mieux que ce que la parole de Dieu nous dit, mais... Et donc, notre texte ici nous présente, quoi, le seul... bonheur ou le seul chemin possible du bonheur. Ici. Et on veut regarder un petit peu plus près ce texte. On ne va pas voir chaque détail qui est donné. Je pense que ça va être plus une petite introduction ici ce matin, et puis je vais laisser à ceux qui passent après moi le soin d'approfondir. Mais on veut voir quand même ce que le Seigneur Jésus dit sur ce que c'est que d'être heureux. Premièrement, on peut voir que le bonheur est la prérogative de Dieu seul. C'est lui seul peut décréter ce que c'est que le bonheur. Jésus déclare objectivement, de manière objective, heureux les pauvres d'esprit, les affligés, les débonnaires. Il dit qu'ils sont heureux. Et donc, on a ici une proclamation du bonheur. C'est comme si Jésus disait, voici le bonheur. Voici être heureux. Cela veut dire. Donc, il ne donne pas une prescription à la manière d'un médecin qui pourrait tirer une ordonnance et puis dire, voilà, il faut faire ça, vous prenez ci. Il dit pas, voilà, un petit peu de pauvreté de soi, un petit peu d'affliction. Si vous avez le cœur un peu pur, voilà, si vous mélangez un peu tout ça, vous atteindrez le bonheur. Ce n'est pas une prescription, ce n'est pas une ordonnance, c'est une déclaration, on pourrait dire presque péremptoire, c'est-à-dire indiscutable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il dit, le bonheur. C'est ça. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, il dit le bonheur, c'est ça. Être heureux, c'est ceci. Et donc, il déclare cela de manière forte. Et Il dit qui sont les personnes, quelles sont les personnes qui sont les personnes véritablement heureuses du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu. C'est ce qui est important ici. Je vous rappelle ce passage d'Ésaïe où Dieu dit à travers le prophète, « Moi, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Moi qui ai fait la lumière et qui ai créé les ténèbres. » Il dit « Qui fait la prospérité et qui crée le malheur ?» D'autres textes disent « Qui crée le bonheur et qui crée le malheur ?» Il dit « Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc lui seul sait ce que c'est que le bonheur et ce que c'est que le malheur, ce que c'est que d'être heureux et ce que c'est que d'être malheureux. Et là, il le déclare. Jésus dit « Heureux l'est. » Et il dit quelles sont les personnes qui sont heureuses à un parterre de gens, de ses disciples, et puis d'autres qui sont certainement devant lui, dans lesquels il y avait des pharisiens qui peut-être se croyaient bénis de Dieu parce que voilà, ils pratiquaient la loi. C'était les gens, eux sont heureux, eux ils sont bénis parce que ils pratiquaient la loi. Et puis d'autres qui croyaient que parce qu'ils avaient des biens matériels, donc c'était le signe de la bénédiction de Dieu, comme sous l'ancienne alliance. Et que là, ils sont vraiment ceux qui sont les bénis, ceux qui sont les personnes heureuses. Mais Jésus déclare d'une manière complètement différente quelles sont les personnes qui sont heureuses. Il fait une déclaration qui est, on peut le voir ici, indépendante des sentiments ressenti. Jésus ne dit pas, voici les personnes qui se sentent heureuses, qui estiment qu'elles sont heureuses. Mais il déclare qu'elles sont heureuses. Ils sont heureux. Indépendamment de ce que eux-mêmes peuvent ressentir. Donc il ne parle pas ici des sentiments. Le bonheur n'est pas dépendant des sentiments ressentis, mais de la déclaration de Dieu. Notre monde fonctionne à coup de sondage, vous savez ça. Puis des fois, ils se trompent. Par exemple, pour les élections aux États-Unis, ils se sont trompés. Ils se sont trompés pour les primaires de la droite en France. Et puis, est-ce qu'ils vont se tromper pour les primaires de... Maintenant, ils n'osent plus trop parce qu'ils se disent, ou alors ils disent, apprendre avec des pincettes. Mais quand même, ils font des sondages. Et il n'y a pas une journée sans sondage. Pas une journée sans sondage. Et j'ai lu dans un journal en 2015, dans un article, sondage, les Français sont heureux malgré la crise. Et c'est un, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils savent ça? Comment est-ce qu'on peut savoir que les Français sont heureux? Et ils ajoutent, en effet, 58% des personnes interrogées s'estiment heureuses. D'accord. Donc, les gens se sont estimées heureuses. Donc, comme 58%, c'est plus que la majorité s'estime heureuse, on déclare, les Français sont heureux. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il n'a pas fait un sondage, il ne dit pas 58% des personnes que j'ai sondées, que j'ai interrogées, m'ont dit qu'elles étaient heureuses. Donc, voici les personnes sont heureuses. Non, il dit, heureux l'air. D'accord? Et il déclare qu'il est heureux, malgré, donc, c'est une déclaration qui est vraie, malgré les sentiments que ces personnes pouvaient ressentir. Et quand on lit le texte, on comprend que c'était pas des situations heureuses. Dans ces conditions de vie, on ne s'estime en général pas heureux, mais plutôt malheureux. Il y a même un texte qui dit « Heureux les malheureux ». C'est le paradoxe, on appelle ça le paradoxe du bonheur. Il affirme donc indépendamment de ce que ces personnes peuvent ressentir, qu'elles sont heureuses. Vous pouvez imaginer par exemple un père qui vient de corriger son enfant. Ça doit faire ça aussi de temps en temps les pères. Corriger son enfant. Et puis qui lui dit « Oh, tu es béni mon enfant ». Et on peut imaginer que le ressenti de l'enfant n'est pas du tout le bonheur et qu'il ne partage pas l'avis du père sur le fait qu'il ait été corrigé. Et il ne dit pas, papa, je me sens heureux. Béni sois-tu, ô Dieu, de m'avoir donné un père qui ne m'épargne pas la verge. Je pense pas, j'ai jamais entendu mes enfants dire ça. Et je ne l'ai jamais dit moi-même non plus quand j'ai été corrigé. Mais franchement, maintenant, je bénis Dieu d'avoir eu un père qui m'a corrigé. Et c'était une bénédiction pour moi d'avoir un tel père. Donc, malgré le ressenti que j'ai pu avoir à ce moment-là. Hein, et si mon père m'avait dit à ce moment-là, béni sois-tu mon fils parce que je te corrige, j'aurais dit, ah, il a un problème. Hein? Mais il aurait eu raison. Hein? Le temps montre après qu'il aurait eu raison de le dire. Donc une déclaration qui est vraie indépendamment des sentiments ressentis. Une déclaration qui est vraie indépendamment des circonstances aussi de la vie. Hein? Notez que le caractère des situations que décrit Jésus ici implique à chaque fois l'hostilité et la difficulté. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ceux qui sont démunis, qui ça parle d'humilité un petit peu ici, donc face à des situations. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Pas besoin de dire que les affligés vivent des situations difficiles. Les humbles de cœur, parfois, hein, on dit qu'il faut pas être, parfois vous avez des bonheurs ou doux, hein, faut pas être trop doux parce que les gens, ils nous marchent dessus, mais face à des situations, nous sommes appelés ici à vivre dans la douceur. Ceux qui ont faim et soif de justice, c'est parce qu'en face, il y a de l'injustice et que la situation autour, c'est de l'injustice. Donc prenez un petit peu tout ce qui est dit ici et vous voyez que le contexte, c'est quand même un contexte difficile. Hein. C'est des situations qui sont difficiles, bien souvent difficiles à porter. Et donc, la déclaration de Jésus, quand il dit « heureux », elle est indépendante, même des circonstances. Il ne dit pas « heureux » parce qu'il y a beaucoup de choses agréables qui leur arrivent dans leur vie, leurs circonstances sont agréables. Il dit non, « heureux » d'une manière unilatérale et inconditionnelle ici. J'ai entendu sur Internet un philosophe qui traitait de la question du bonheur et il dit que les scientifiques disent que le bonheur vient pour 50% de nos gènes, 40% du choix de vie et de 10% des conditions extérieures. Et donc, on ne peut rien faire pour que les 50% des gènes, c'est comme ça, c'est déjà inné. Après les choix de vie, on peut peut-être améliorer un petit peu ça. Et puis après, si on vit dans le 93 plutôt que de vivre dans le 8e arrondissement, eh bien, ça aura des effets sur notre bonheur. Mais ici, il n'en est pas du tout à question. Jésus dit qu'ils sont heureux indépendamment des circonstances qu'elle peut vivre. Et il prend dans ce qu'il décrit, c'est des circonstances difficiles. Et pour montrer que le bonheur existe dans ces conditions-là. Le bonheur donc est un don de Dieu. C'est ça que Jésus dit ici en substance. Il ne dit pas en faisant ces choses, ces personnes seront heureuses, mais il déclare qu'elles le sont. Et elles font ces choses, elles vivent de cette manière parce que elles sont des personnes heureuses qui ont hérité, le texte le dit, hein, du royaume des cieux. Donc il n'y a pas de bonheur, chers frères et sœurs, en dehors de ce que Dieu déclare être le bonheur. Il n'y a personne qui puisse dire, qu'on puisse qualifier de heureuse en dehors de celle que Jésus, Dieu, qualifie d'être heureuse. Indépendamment de ce que nous pouvons entendre, indépendamment des gens qui peuvent dire oui, nous sommes heureux ou non. Hein. J'entendais quelqu'un qui disait le bonheur, c'est une absurdité. Ce qu'il faut chercher, c'est des moments où on est heureux. Hein. Alors, comme on n'arrive pas à être heureux soi-même ou à atteindre cet idéal du bonheur, on dit que ça n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher et que c'est absurde. Un peu comme le singe, dit-on, quand sa patte n'arrive pas à atteindre les cerises, il dit qu'elles sont acides. Et parfois, les hommes, nous agissons un peu comme ça. Quand nous n'arrivons pas à atteindre quelque chose, nous disons que ça n'a plus de valeur. Mais ici, le Seigneur déclare que ça existe. Hein, que les gens heureux, ça existe. Et que c'est lui qui procure ici ce bonheur. Donc, le bonheur est la prérogative seule de Dieu. Deuxième chose, quoi qu'on peut voir aussi dans ce qui est dit dans ces premiers versets, c'est que le bonheur consiste dans la manifestation d'une vie particulière. Le bonheur consiste dans la manifestation d'une vie particulière. Notons que les personnes désignées par Jésus comme étant heureuses ne le sont pas, elles ne sont pas désignées par leur nationalité. On fait des sondages sur quels sont les peuples les plus heureux. Il paraît que les gens du Nord sont plus heureux parfois que les gens du Sud. On ne les désigne pas, Jésus ne les désigne pas par leur sensibilité spirituelle, ni par leur profession, ni par leur situation matrimoniale, ni par leurs ressources, ni par leur descendance. Il ne dit pas ceux qui sont descendants d'Abraham, etc. Il dit simplement, il les désigne simplement, pardon, par une attitude et des dispositions intérieures. Il dit heureux les débonnaires, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui ont le cœur pur. Voyez, donc heureux les affligés, heureux les persécutés. Donc il décrit par des dispositions et des attitudes au sein de situations particulières. Et notons que ces dispositions, ici, pauvres en esprit, affligés, débonnaires, doux, faim et soif de justice, miséricordieuse, pureté du cœur, artisans de paix ou persécutés pour la justice, les outragés ou les calomniés à cause de Christ, que tout cela manifeste des dispositions qui ne sont pas des dispositions naturelles. Vous pouvez dire, ce sont des choses que les gens peuvent faire. Il y a des gens qui sont maltraités, des gens qui sont doux, des gens qui sont pauvres d'esprit, etc. Je ne crois pas que ce soit ça que le Seigneur désigne ici. Je pense qu'il traite ici de la manifestation d'une vie surnaturelle. Jésus décrit la vie ou le caractère de l'homme selon Dieu. Il est donc évident ici que ce qu'il décrit n'est pas produit chez l'homme de manière naturelle. Et que l'homme naturel ne vit pas de cette manière. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent que les béatitudes ou tout le sermon sur la montagne, c'est un idéal de vie parce que aucun homme ne peut atteindre ces choses. Donc, vous pouvez essayer de trouver des gens qui vivent naturellement ainsi. Peut-être vous allez trouver des gens qui sont plus ou moins affligés, ou des gens qui sont doux, ou qui tentent de pacifier peut-être des situations, ou d'autres encore qui investissent dans le secours des plus démunis. Mais il nous faudrait être vraiment certain que ce que nous appelons la pureté de cœur, ce que nous appelons ici la douceur, etc., sont exactement du même acabit que ce que Jésus décrit ici. Et puis, je pense à la pureté de cœur. Peut-être on peut dire on trouve des qui sont doux, des gens qui sont un peu des artisans de paix, qui recherchent la paix, des gens qui manifestent un peu de miséricorde. Mais est-ce qu'on a déjà rencontré quelqu'un qui, naturellement, a un cœur pur? Je ne crois pas. Et David, dans sa prière, dans le psaume 51, dit « Ô Dieu, quoi ? Crée en moi un cœur pur. » Donc le cœur pur est une création de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on a naturellement. Et je doute fort que Jésus mette en même temps des choses qui sont de création divine avec des choses qui sont naturelles. Un mélange de dispositions intérieures qui sont à la fois, qui exigent une création, l'intervention divine de Dieu, et puis d'autres qui sont simplement naturelles. Donc tout ce dont il parle ici, ce sont des sentiments, des dispositions qui nécessitent une vie surnaturelle. Ici. Et n'oublions pas, je disais tout à l'heure, que c'est la perfection qui est le standard du Dieu parfait. Dieu ne peut pas exiger moins que la perfection, parce qu'il est lui-même parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Sa perfection à lui entraîne la perfection aussi pour l'exigence de la perfection pour ses enfants. Et puis je dis que c'est une vie surnaturelle, est prouvée par le fait que Jésus n'est pas venu simplement enseigner une philosophie de vie. Il y a des gens qui prennent ça pour une philosophie de vie. Voilà, c'est bien, c'est pas mal ce que Jésus dit ici, ça donne une certaine philosophie. Je discutais avec, il y a un peu avant les vacances de Noël, avec un collègue qui me dit, mais moi je pense que Jésus, on a eu une longue discussion et il me dit, mais je crois pas tout ça que la Bible dit sur Jésus. Je crois que Jésus était un peu, enfin, dans ce qu'il racontait, quelqu'un comme l'abbé Pierre. Voilà. Hein, voilà. Qui a fait, voilà, pas mal. Qui a fait du bien autour de lui. Voilà. Il était un bon exemple, etc. Et puis il y a des gens qui prennent un petit peu, donc, ce passage dans ce sens. Donc Jésus n'est pas venu pour enseigner l'homme, à l'homme naturel, une philosophie de vie. Ou qu'il pourra lui-même embrasser pour améliorer ses conditions. On se rappelle que ce que l'ange a dit à Joseph, quand il est venu le voir pour la naissance de Jésus, il a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, aussi au berger, il a dit, il vous est né un sauveur, non pas un enseignant, non pas un maître en philosophie de vie, mais un sauveur. Donc Jésus est venu premièrement pour sauver. Donc quand il enseigne pour sauver. Et donc ce que Jésus dit ici concernant les dispositions intérieures vise ici le salut. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire pour être sauvé, mais il décrit ici la vie. La vie véritable, la vie de celui qui a Christ ici en lui. Donc il ne faut pas considérer les dispositions ici comme des dispositions naturelles, mais comme des dispositions, une attitude surnaturelle. Et donc ici, il dit que le bonheur consiste en la manifestation d'une vie surnaturelle. Et cette vie, c'est la vie de Christ même, qui, plus que Christ, a pu vivre ces choses telles qu'elles sont décrites ici. Vous prenez tout ce qui est dit dans les béatitudes, la pauvreté d'esprit, tout. Et vous regardez, est-ce que vous pouvez trouver d'autres passages de la Bible qui affirment que Jésus a été ces choses? Oui, on peut trouver, on n'aura pas le temps de le faire ici, mais la Bible dit qu'il s'est humilié, ne regardant pas comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il a connu l'affliction, en ayant souffert pour nous. Le psaume 22, verset 1 nous le montre. Il a été débonnaire, doux. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Il est celui qui a eu faim et soif d'accomplir la justice de Dieu. Hébreu dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il a le cœur pur, il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis de péché. Il était sans tâche, séparé des pécheurs. Il est le Dieu miséricordieux, donc il a exercé la miséricorde. Il procure la paix. La Bible dit qu'il est appelé le prince de la paix. Il a été persécuté pour la justice, il a subi les outrages, il a été l'objet de faux témoignages. Oui, ce qui est décrit ici, c'est le caractère même de Christ. Et donc, être heureux, selon Dieu, c'est manifester la vie de Christ même. Manifester la vie de Christ même. Par conséquent, ici, toutes ces dispositions, là, ici, par lesquelles le Seigneur s'identifie à ceux qui sont, ceux qui sont heureux, du point de vue de Dieu, sont les dispositions et les sentiments qui étaient vraiment en Jésus-Christ. Et donc, ne peuvent pas être heureux, selon Dieu, ceux qui n'ont pas la vie de Christ. Le vrai bonheur, selon Dieu, consiste à avoir la vie de Christ. Personne ne peut vivre ces choses, à moins d'avoir la vie de Christ qui vit en lui. Et donc, personne ne peut être heureux sans la vie de Christ qui vit en lui. Le bonheur, ce n'est pas un état statique, où l'on éprouve des sensations agréables, mais c'est la manifestation d'une vie et la manifestation de la vie de Christ. Quand on lit l'Ancien Testament, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'être heureux véritablement? Qu'est-ce qu'être béni de Dieu véritablement? Et Dieu, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre des Nombres, dit ce que c'est que la bénédiction. Comment il veut bénir et rendre heureux son peuple. Et il dit dans Nombres chapitre 6, regardez avec moi Nombres chapitre 6, verset 23, Nombre chapitre 6 et au verset 23. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Vous voyez, c'est Dieu qui décide comment on est béni et comment, à quel moment on l'est. Il dit, quand, voilà, vous direz que les, verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et là, on a une répétition ici, versets 24, 25 et 26. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et les deux autres, je pense, sont le développement de la même pensée. C'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que c'est quoi la bénédiction de Dieu? Eh bien, il dit, ici, ça veut dire quoi? C'est comme s'il disait, ça veut dire que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il, verset 25, pardon, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ça veut encore dire que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Les Juifs, je pense que pour eux, la suprême bénédiction était pour peut-être de pouvoir avoir une proximité la plus, être le plus proche possible de Dieu. Un peu comme Moïse, vous rappelez, quand il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'était un désir de connaître Dieu davantage. C'est comme ce chant que nous chantons, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité, nous chantons. Et voir Christ, c'est pour ça qu'il dit que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et voir Dieu, je crois que c'est ce que un enfant de Dieu devrait désirer le plus, le voir face à face. L'apôtre Jean, il le dit dans la première épître ici. Et le péché, qu'est-ce que le péché a fait? Le péché nous a éloigné Adam et Ève de la face de Dieu. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et dans ce que Jésus promet, il promet le moyen que cette communion, cette présence de Dieu soit à nouveau possible. Et la bénédiction des bénédictions, c'est de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, voilà, vous le bénirez, vous direz au peuple, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il y ait cette présence. Mais il ajoute, et qu'il t'accorde sa grâce, et qu'il t'accorde sa paix. Et j'ai envie de dire, on sent là qu'il y a la nécessité que Dieu fasse grâce et qu'il établisse la paix entre l'homme et lui pour que cette communion de face à face soit rendue possible. Et quand vous lisez les écrits de Paul ou des apôtres, leur salutation c'est toujours que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'on peut dire que Jésus-Christ s'est incarné. Et que l'incarnation de Christ a rendu possible véritablement la réalisation de cette bénédiction. Il s'est incarné, il a participé, l'Épître aux Hébreux nous dit, il a participé à la chair et au sang. Il est devenu semblable à nous, il a vécu une vie de justice. Il a offert cette vie. Et la Bible dit que par son sang, nous avons la paix avec Dieu. Il nous a fait la grâce et par son sang, nous avons la paix avec Dieu. Et nous pouvons, pour ceux qui connaissent Christ, bénéficier de cette présence de Dieu, de cette bénédiction qui consiste à être accepté dans la proximité, dans la présence même de Dieu. On a une libre entrée dans le sanctuaire par le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, la bénédiction, je pourrais dire des bénédictions, c'est vraiment d'être placé dans cette présence de Dieu et qu'il nous garde par sa grâce et par sa paix. Christ est celui qui réalise la bénédiction, qui réalise cette vie véritablement pour nous amener dans la présence de Dieu. Et un auteur disait qu'être heureux n'est pas un sentiment superficiel de bien-être basé sur les circonstances, mais une expérience surnaturelle, profonde, de contentement basé sur le fait qu'on est en règle avec Dieu, qu'on est gardé par lui, qu'on est sous sa grâce et que nous sommes en paix avec lui, et que nous pouvons jouir, un jour nous le verrons pleinement, et jouir pleinement de sa présence. Ça, c'est le bonheur. C'est ce que la Bible appelle être heureux pour l'homme. Et Jésus dit « heureux ceux qui sont décrits comme cela parce que le royaume des cieux est à eux ». Ils sont maintenant des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu. Ils verront, comme nous le chantons, leur sauveur, le Seigneur, face à face. Et puis, je termine juste en disant que, ici, le bonheur aussi, eh bien, c'est une marche, je crois, dans la sanctification, parce qu'il est normal de considérer que, même en étant enfant de Dieu, on ne réalise pas tout ce que Jésus décrit ici comme attitude. Mais il veut que ces choses se réalisent en nous. Donc nous sommes appelés à vivre de plus en plus dans cette dynamique de sanctification. Et cela doit être pour nous comme le miroir que nous regardons et puis dans lequel nous modifions au fur et à mesure notre visage, notre apparence pour qu'il puisse ressembler à cela. Et c'est l'Esprit de Dieu dans le croyant qui peut accomplir cela. Donc il y a ici un appel à vivre avec ces standards. Non pas à les regarder comme, à les accrocher au mur comme quelque chose que l'on contemple simplement, mais à les regarder comme quelque chose vers lequel on marche et on agit et on s'efforce pour vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle ici à vivre. Et quand il dit que ces gens sont heureux, et qu'il donne toutes ces caractéristiques, c'est pour appeler, je crois, vraiment les chrétiens, parce qu'il s'adresse principalement à ceux qui ont la vie de Christ en eux, les chrétiens, à vivre de cette manière. Et donc, il établit une frontière entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Et cette frontière, c'est ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Les personnes qui ne connaissent pas Christ sont malheureuses, quoi que l'on puisse dire. C'est selon Dieu qu'elles sont malheureuses, donc selon la déclaration de Dieu. Dans l'évangile de Luc, si vous lisez les béatitudes, Luc ajoute les malheurs avec les bénédictions. Il dit malheur à ceux qui sont pauvres, mais il dit heureux ceux qui sont pauvres, mais il dit que ceux qui sont riches, eh bien la malédiction demeure sur eux parce qu'ils ont déjà leur récompense. Et donc identifiant ceux qui sont heureux, le Seigneur identifie par là même ceux qui ne le sont pas et ceux qui sont malheureux. Donc nous sommes appelés à vivre de plus en plus ici selon ces critères, selon ce standard que le Seigneur place ici devant nous. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu qui agit dans le croyant que l'on peut vivre ainsi. L'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc le chrétien est amené à vivre une vie réelle, mais une vie à la fois spirituelle et surnaturelle. Et je crois que ces béatitudes ici vraiment qualifient, identifient ce qu'est un vrai chrétien. Et le standard en dessous duquel il ne devrait pas vivre. Et donc nous avons à prier Dieu qu'il nous aide à vivre cela d'une manière qui lui soit agréable. Je voudrais donner quelques applications pour nous ce matin. Premièrement, c'est que la parole de Dieu est le seul critère fiable d'évaluation. La parole de Dieu est le seul critère fiable d'évaluation. Jésus dit heureux, c'est lui qui décide, qui dit qu'elles sont heureuses, et quelles sont les personnes heureuses. pas les sentiments, pas ma compréhension, pas mes expériences, mais la parole de Dieu. La vie heureuse est celle que Dieu déclare être heureuse. Point final. On ne peut rien ajouter à cela. Donc, ce qui est le seul instrument fiable pour mesurer quelque chose, c'est la parole de Dieu. Peu importe le nombre de bac plus de la personne qui dit les choses, ce qui est le critère absolu, le niveau avec lequel on mesure toute chose, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu dit que les heureux, ce sont ces personnes, c'est que les heureux sont ces personnes-là. Le bonheur, deuxièmement, ne peut provenir d'aucune chose terrestre. Le bonheur ne peut provenir d'aucune chose terrestre. Rien de ce que Jésus décrit ici ne provient de la terre. Il n'y a aucune satisfaction durable pour l'homme dans les choses qui met sa confiance dans les choses de la terre, ni dans le produit de la pensée, etc. Rien de ce qui est naturel ne provient, ou qui provient du naturel ne peut procurer le bonheur. Donc, le bonheur ne peut provenir d'aucune chose de la terre, quoi que les gens disent. Donc, pour nous chrétiens, c'est important parce que nous avons tendance à faire un peu comme la société dans laquelle nous vivons. Mais nous devons nous rappeler avec ce que le Seigneur Jésus montre ici, que nous ne pouvons tirer absolument aucun bonheur des choses de la terre. Et on peut mourir, comme disait le prophète Jérémie, au milieu de l'abondance. On a beaucoup d'abondance, beaucoup de technologies, beaucoup d'appareils, beaucoup de tout ce que vous voulez. On vit dans une société où on a tout, dès le plus jeune âge. Mais on peut mourir au sein même de l'abondance de ces choses, parce que ces choses ne procurent pas la vie. Thomas Watson, un puritain, dit ceci, il dit « Ne vous inquiétez pas de ces choses dont le manque ne peut vous rendre heureux et dont la jouissance ne peut vous bénir, non, ne peut non plus vous bénir. Hein. » Donc il y a des choses qui ne peuvent pas nous rendre heureux, qui ne peuvent pas nous rendre malheureux si on ne les a pas, donc si le manque de ces choses ne nous rend pas malheureux. Et même avoir ces choses ne nous rend pas non plus heureux. Et il dit qu'on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. On doit s'inquiéter. Quelqu'un, je me rappelle de notre auteur qui disait que l'homme n'est riche que de ce que la mort ne peut lui enlever. Vous prenez tout ce que la mort peut vous enlever, eh bien, si une fois que vous êtes mort, vous n'avez plus ces choses, eh bien, vous êtes malheureux. Mais est-ce que la mort peut nous enlever la vie en Christ? Non. Et donc, c'est la seule chose que nous avons besoin pour être heureux. Et puis, le bonheur est exclusivement lié à la vie de Christ. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Christ ici ce matin pour dire, affirmer fortement ce que le Seigneur montre ici. Il décrit la vie surnaturelle, spirituelle, de ceux qui sont heureux. Donc, le bonheur véritable est lié à la manifestation de cette vie. Et donc, cette vie est indispensable au bonheur. Elle commence sa vie donc avec le pardon des péchés. C'est ce que ça veut dire ici. Si pour avoir la vie de Christ, il faut avoir le pardon de Christ. L'apôtre, je pense que c'est Pierre, dit dans Actes chapitre 3, il parle aux Juifs, il dit c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de ses iniquités. Comment est-ce que Dieu veut bénir? Premièrement, en détournant chacun de ses iniquités, en ôtant le péché. C'est pour ça qu'il est venu comme le sauveur. Et donc, le point de départ, c'est vraiment d'avoir le pardon de ses péchés. Et comment avoir le pardon de ses péchés? Bien, c'est de venir à Jésus-Christ, se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est exercer la foi en Jésus-Christ. C'est venir à lui, croire en lui. L'Épître aux Galates, il dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc ne sont heureux, ne sont bénis que ceux qui croit, dit l'apôtre Paul ici. Et donc, si vous voulez être béni, vous ne pouvez avoir aucun bonheur, et ce n'est pas le fait d'avoir été sur les bancs de cette assemblée pendant des années depuis votre plus jeune âge qui change quelque chose. Ce qui nous place dans la bénédiction de Dieu, c'est de placer notre confiance en Jésus-Christ, d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Et en ce début d'année, c'est une question fondamentale ici pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Sinon, Dieu dit, malheur. Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Votre confiance est en Jésus-Christ. Eh bien, Dieu dit, vous êtes heureux. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Vous pouvez venir à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, venez à lui. Venez, vous tous qui êtes fatigués, dans le même évangile, il le dit, et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur nous aide à vivre pleinement ces choses. Le chemin du bonheur, c'est celui qui consiste à avoir la vie de Christ qui vit en nous. Que le Seigneur nous guide et nous fasse dire à ceux qui disent que le bonheur n'existe pas, que le bonheur, être heureux, c'est une utopie. Non. Oui, selon le monde, oui, selon ce que vous définissez comme être heureux, oui. Mais selon Christ, il y a une vie heureuse. Selon Dieu, il y a une vie heureuse. Et c'est de vivre dans la communion et dans l'intimité avec Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide par son esprit à réaliser ce standard que le serment sur la montagne place devant nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta grâce, ton amour, pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta parole et cette vie que tu dévoiles sous nos yeux qui nous semble tellement élevée, tellement profonde, tellement pure, et elle l'est, mais à laquelle tu appelles tous ceux qui t'appartiennent, parce que ce sont les standards du royaume des cieux. Et nous te remercions de ce que, dans ta grâce, tu sois venu vers nous, et que par ton sacrifice, Seigneur, tu nous donne l'accès à ce royaume et à cette vie. Je te prie afin que tu fasses ton œuvre en nous par ton esprit. Amen.